chien, Pupus, qui avait assisté au spectacle, n'aimait pas non plus les tableaux de Salvador Dali. Je l'avais amené à une exposition et il m'a déclaré « Wouah, 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 wouah ». Ça ne me plaît pas, c'est la traduction. Il a déçu Pupus, Dali. Il a déçu Pupus, Dali.
D'un seul coup, j'ai eu peur que le palindrome de Gérard Durand soit aujourd'hui en langage des chiens, et je ne sais pas ce que ça donne effectivement, Wawa, en palindrome possible. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, j'ai constaté dans les rues de Paris des amoncellements d'ordures non ramassées, et finalement, je me rends compte que non, on n'a pas tant de trucs dégueulasses que ça dans les poubelles. Ça pue, mais on n'est peut-être pas dans une telle société de consommation. En même temps, je ne sais pas dans quel quartier, enfin si je sais dans quel quartier je suis passé et j'ai vu tout ça. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits « je me souviens ». Je me souviens que 78 sur une plaque minéralogique, ça voulait dire « Seine-et-Oise ». Je me souviens de Liliane, on fait les valises. Je me souviens de « Au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle, au feu les pompiers ». Je me souviens que sur la couverture de mon cahier de brouillon, il y avait l'archer Héraclès visant les oiseaux du lac Stymphale. Ah mais j'étais jaloux de Jean-Luc qui avait sur ses cahiers « René Caillet frappant aux portes de la cité mystérieuse de Tombouctou » ou « Louis Blériot avec sa casquette à longues oreilles ». Ah, il y en avait les trucs sur les couvertures de nos cahiers de brouillon. Je me souviens des séchoirs à houblon le long de la route, quand j'allais rendre visite à ma tante et mon oncle à Liévin. Je me souviens de « À moi, compte de mots ». Je ne me souviens pas d'avoir croisé de personnes me déclarant « Mais 68, bien sûr que j'y étais, j'étais dans telle compagnie de CRS. Est-ce inavouable ou est-ce dû aux gens que je rencontre ?» Je me souviens de « Oh, et un bon ». Je me souviens que je ne comprenais pas pourquoi Georges était mort de rire en nous répétant cette réplique entendue dans un western. Suzy est derrière la porte, défonçons-la. C'est d'ailleurs parce que je ne l'avais pas comprise à l'époque alors, et que ça semblait l'amuser beaucoup, que je l'ai retenue. Je me souviens des chants de Maldoror, rue du Grand Prieuré. Je me souviens de la préface louangeuse de Philippe Val sur les éditions des deux premiers tomes de « Ma vie, mon œuvre, mon cul » de Ciné aux éditions Charlie Hebdo, pris en francs encore à l'époque, quand Ciné faisait partie de l'équipe de Charlie. Je me souviens de « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar ». Je me souviens qu'après avoir récupéré dans la poubelle du Franprix des pots de confiture, des saucissons ayant dépassé la date de consommation et de la salade non passée à l'eau de Javel par consigne venant d'en haut, le manchard de la rue des Pyrénées prenait aussi des sacs de pain jaqué pour les pigeons devant sa tente. Je me souviens qu'après que sa chambre à l'internat de Rennes a été pillée, Erwan était arrivé à la conclusion suivante « Eh, c'était pas des gars de chez nous, ils ont tout piqué dans le frigo, sauf le beurre de micelle. » Je me souviens de la faillite de la banque Lehman Brothers. Je me souviens de la voix au perché de Lisette Jambel chantant « Malbrousse s'en va en guerre » et autres comptines enfantines sur des 33 tours petit format, y compris d'ailleurs une version somme toute assez féministe du Petit Chaperon Rouge, dont je ne me souviens même plus du refrain. Je me souviens des couvertures de Guy Descartes en collection J'ai lu, avec le logo ovale dans la bibliothèque de ma tante Henriette. La maudite, la révoltée, la tricheuse, la vipère, la coupable, l'homme au double visage, la corruptrice, l'envoûteuse et même l'impure. Guy Descartes. Ça donnait envie, hein. Plus même que les Émile Zola, Jean Giono, Pagnol, Elsa Triolet ou Simone de Beauvoir de la bibliothèque de mes parents. Je me souviens de T comme Thérèse, U comme Ursule, F comme François, S comme Suzanne, A comme Anatole, G comme Gaston, N comme Nicolas, mais je suis bien conscient qu'il m'en manque les deux tiers. Je me souviens que Félix était envieux, têtu, critique, sanguin, travailleur et intelligent. Je me souviens que Jérôme était intelligent, travailleur, sanguin, critique, têtu et envieux. Je me souviens que ça, c'est juste un test de psychologie. Alors là, normalement, dans ces cas-là, je lance la musique et ça passe pas, si ? Ça passe ou pas ? Non. Ah, j'ai un problème avec l'ordinateur. Je vais essayer de résoudre ça. En attendant, je passe la parole à mes amis présents dans le studio Radio Libertaire 89,4 MHz.
Bonjour, donc c'est Sophie aujourd'hui. Moi je vais vous dire des textes sur le thème de l'apparence, comme la précédente fois. Il y a à côté de moi Michel.
Michel, oui. J'ai survécu à une terrible angine et j'ai récupéré ma voix juste maintenant là pour vous, pour venir faire cette émission. J'espère récupérer le reste bientôt. Et je vais vous lire un petit texte de Marcel Schwab tout à l'heure.
Et on aura aussi un petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie. Et là, normalement, ça devrait marcher quand même, l'ordi.
Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes, les nouvelles en France sont les mêmes, paraît que la révolte gronde.
Que toute la gauche bat le pavé, même le PS est dans la rue, longtemps que c'était pas arrivé, Olivier Faure est tout perdu.
Mais à Matignon, à l'Élysée, on lâche rien, on reste debout, hasta Marlène Schiappa siempre, oui on se battra jusqu'au bout.
Que les gauchos viennent nous chercher, gare à toi Philippe Martinez, on est courageusement cachés derrière les cordons de CRS.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon.
D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions.
Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison.
On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation.
D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie.
Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%.
On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Le 7 mars on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron.
Merde, ça c'est un trac de LFI que j'ai pris sans faire attention.
Macronistes de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes.
Bon, on est 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt.
Tous solidaires avec nos frères, les PDG du CAC 40.
Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré.
On est là, on est là, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là.
CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue.
Martinez, si tu savais.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Voilà, évidemment, c'est pas la peine que je les désannonce par les voix et par l'esprit. Vous avez reconnu les goguettes. Ah, d'ailleurs, il y a une toute petite fin après à ce truc-là, où dans la rue, après leur manifestation, les membres du CAC 40 se séparent parce qu'ils ont un débrief, un calling ou je ne sais quoi. Mais je me pose la question quand même, ils ont tourné ça effectivement à quatre dans la rue et je ne sais pas exactement dans quel arrondissement ça se passait, mais à mon avis, les gens qui habitaient dans la rue en question et qui ont vu quatre gus en train de chanter « on lâche rien » et « soutien à Vincent Bolloré » et tout, ont dû se poser des questions et j'espère que les goguettes ont expliqué pourquoi c'était, parce que sinon, à mon avis, ils risquaient de se faire péter la gueule. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Alors, c'est quelle voix qui commence ?
Avant ça, je voulais rebondir sur la manif de droite qui a eu lieu il y a longtemps, il y a des années, une vingtaine d'années, je crois. Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit « Oh, mais c'est horrible, ils n'ont pas honte, ces gens-là » Enfin, elle n'avait pas vu, en fait, que c'était une blague. Et voilà, bref, c'était pour rebondir là-dessus. Je vais enchaîner, si vous êtes d'accord, avec une sorte de nouvelle. Qui s'appelle « Dieu n'existe pas ». Et il s'agit d'un petit garçon de 9 ans qui parle. Pour rappel, aujourd'hui, je continue sur le thème de l'apparence. Donc, c'est un texte qui est vieux, il a une vingtaine d'années. Ma maman a fait dans sa tête un labyrinthe où elle s'est perdue elle-même et m'a donné le fil d'or. Mais je me suis perdue aussi. Je l'ai cassé. J'ai tiré trop fort, j'ai couru trop vite. Moi, je me balade toujours avec un miroir de poche. Ça n'est pas du narcissisme, non. Je trouve que c'est la moindre des choses de savoir ce qu'on expose aux autres. Pendant mon introspection, je vois toujours quatre poils au menton, quatre poils nus, noirs et drus. Ils sont tout droits. Ils sortent de moi. Je les aime pas trop. Enfin, je sais pas. Parfois, je voudrais les arracher, mais il paraît que c'est les filles qui font ça, et moi j'en suis pas, moi je suis un garçon. Parfois aussi, avec le miroir de poche de maman, je vois des boutons, et je les pète parce que c'est pas beau à montrer aux autres, ces trucs jaunes. C'est vraiment toute une organisation. Installation du miroir entre les deux genoux, bien calé, et pétage de pustules. Le truc c'est qu'après, j'ai le visage tout enflé, alors pendant quelques temps, faut bien me cacher. Chez moi, quand on touche quelque chose, faut le remettre à sa place. Comme ça, quand on cherche quelque chose et qu'on se demande « Il est où le truc ?» Les autres répondent « À sa place !» C'est très pratique. Ici, si tu touches les objets et que tu les remis pas à leur place, maman hurle. Moi, comme je n'aime pas qu'elle hurle, j'ai voulu faire comme Pavlov, la faire saliver au lieu d'hurler. J'ai voulu lui montrer que quand un objet bougeait, c'était pas grave. Alors j'ai continué, j'ai déplacé tout en me disant qu'à la fin, elle arrêterait d'hurler. Moi, je me regarde. Je me regarde tout le temps. Pour voir si je suis jolie ou pas. Papa, il dit que c'est pas important, que la vie, c'est pas un défilé de mode. Mais moi, je m'en fiche. J'ai un miroir dans ma trousse et en classe, quand j'ai besoin de savoir qui je suis, je l'ouvre sans que personne ne voie. À la cantine, il y a les couteaux aussi. Je peux faire croire que je vérifie si mon couteau est propre, mais en fait, je me jette un coup d'œil au cas où. Il y a aussi les vitres, mais avec le reflet, c'est pas facile. Le métal des couteaux, c'est mieux. Pas des fourchettes, on est découpé et la cuillère nous rend moches tous. Le meilleur moment de la journée, c'est dans le bus, le soir. Parce qu'il y a le grand miroir du conducteur, en haut, à l'avant du bus. Le truc, pour s'y voir, c'est de se mettre à la bonne place. Parfois, je peux pas demander à l'autre de bouger. Il me prendrait pour un barjot. Mais quand j'y suis, à la place, je me regarde en cachette pendant tout le trajet. Et parfois, je me trouve très jolie et je ne me quitte pas des yeux sans que les autres voient. Les autres, ils voient pas ça. Ils disent que je suis bizarre. À cause de ça, il y en a qui m'aiment pas. Alors, ils m'embêtent tout le temps. J'ai tellement peur que je ne bouge pas. Je les entends rigoler derrière moi. Mais je ne peux pas tourner la tête. Si je tourne la tête, ils viront mon nez gros de profil. Et ça, non, je ne veux pas que les autres le voient. Mon visage, je m'arrange toujours pour le montrer de face. Là, les autres y voient pas mon front plat et mon nez gros. Il faut bien rester en face. Mais on peut pas être de face de tout le monde tout le temps, c'est compliqué. Alors, quand je suis trop fatiguée, je disparais. Parfois, je sais pas pourquoi je pleure tout le temps pour rien. J'ai même pas envie d'aller acheter des nouveaux trucs que j'aimais avant. Maman dit que c'est rien, que ce n'est pas grave, que je suis juste déprimée. Ça dure quelques jours et après ça va mieux. Parfois je me sens super fort et là ça sort tout seul et là je rigole tout le temps. Là, je me sens fort et plus personne ne peut me faire du mal. Après c'est comme si mon corps y décidait tout. Et un truc qui dort. Je me vois comme les autres me voient, comme un taré. Faut pas croire. Mais c'est pas ma faute. Ça me tient. Ça décide pour moi. Comme dans l'exorciste. Papa et maman m'ont raconté l'histoire, mais je l'ai pas vue, je suis trop petit. Je le regarderai quand j'aurai l'âge, ils ont dit. Papa m'a dit que la petite fille, elle se fait mal au kiki avec un crucifix. Et que aussi, une fois, elle est dans son lit et elle se lève et s'allonge plein de fois très vite et elle a peur et elle crie, elle peut pas s'en empêcher. Papa, ça lui va faire super traumatiser. Parfois, moi, ça me fait pareil. Je tremble et je respire mal et je me relève tout seul et ça dure des heures et à la fin, je crie. Le docteur a dit que ça s'appelle la spasmophilie. Moi, il n'y a pas de monsieur qui m'aide, comme dans le film. Moi, c'est la vérité, ça m'arrive en vrai, et le diable n'existe pas. D'ailleurs, moi, j'y crois pas en Dieu, et mes parents non plus.
On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous un moment. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros mots. Et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des belles dames toutes nues. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des teases. Paraît qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien. J'aime tellement les fleurs, pour leur arracher les pétales. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Ben.
Et voilà, Francis Blanche, évidemment, ça tourne pas rond dans ma petite tête, le tout sur un air tout doux, tout gentil, comme une ronde. D'ailleurs, il me semble qu'en musique, pour faire une ronde, il faut deux blanches. C'est pourquoi je vous offre tout de suite un deuxième blanche, en l'occurrence Jean-Marie.
C'est un poème, une sorte de poème stellaire. Hein. Celui-là a été composé par Oscar Miloš et il m'a bien plu. La lune à la terre. Comme un petit matin se pose avec amour sur un beau front en proie à la mère pensée, permet que je caresse, ô ma sœur délaissée, ton visage attristé par la fuite du jour. Ce n'est point le soleil disparu que tu pleures. Il brûle seulement d'un éclat emprunté. Tu soupires, ma sœur, vers les hautes demeures de celui-là qui luit dans sa propre clarté. Comme toutes nos sœurs dans la nuit dispersée, nous cherchons le sentier qui saurait enfin conduire à ce suprême objet de nos pensées. Car nous devons un jour nous fondre dans le sein de celui qui saura des songes que nous fûmes refaire d'un seul mot une réalité, et de nos corps, longtemps dispersés dans les brumes, rétablir à jamais la mystique unité. Si, baigné dans les eaux, le reflet de ma face plaît aux yeux des songeurs et des initiés. Quel chant d'amour s'élève au profond de l'espace lorsque tu m'apparais au-dessus des glaciers. Ne lève point vers moi ton beau regard d'eau tendre, car en m'apercevant si pâle le de sommeil, tu t'imaginerais me voir là que la cendre et de ce qui tantôt la flamme du soleil. Imagine qu'un jour la parole de la terre te viendrait d'aussi loin que la faible chanson qu'on écoute à travers une porte de verre et qui ne passe pas le seuil de la maison. L'instant n'est point venu. Sur tes blanches rivières et tes lacs aimants, berceau des nymphéas, laisse encore dormir les brumeuses paupières, ferme tes chastes fleurs, car je ne voudrais pas de tous ces yeux d'amour avant l'heure d'être vus. Non, je veux apparaître à l'horizon de juin, dans le rayonnement d'une gloire inconnue au miroir de tes mères, comme au regard humain. Oscar Miloš, merci.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi. Les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa nuit. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, bas, toi, ma femme, pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas.
pour la trouver, hein. Il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil, rendez-vous, et la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage, qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous, il voyage, il voyage, il voyage, puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit.
Et finalement, on reste pas loin de Francis Blanche, puisque ensemble ils avaient pondu le débit de l'eau, débit de lait. Radio Libertaire, il est 15h17, comme à l'accoutumée, pour savoir qui va prendre la parole. Je sors un dé, je le lance pas, ça coûte assez cher un dé, bordel. Donc, lettre S comme Marcel Schwab.
Un texte dont l'auteur donc est Marcel Schwab. Cruchette, c'est un texte qu'il avait dédié à un dénommé AWGC Baivank, que je ne connais pas. Voilà. As-tu encore un peu d'eau dans la cache, frangin ? Je me meurs, dit Jambe de Laine. Nippe de lance, répondit Silo, mais Cruchette va venir. Les cailloux semblaient rouges, tant le soleil ensanglantait les yeux. La bruyère était sèche. Les clochettes bleues s'abattaient sur la mousse brûlée. Il y avait un petit bois de chêne nain au bout de la lande, et le cri des oiseaux y sonnait frais. Assis parmi les meules pierreuses, Silo et Jambe de Laine, épuisés de chaleur, frappaient mollement les cailloux de leur masse de plomb. « Eh ben, si t'avais été joyeux, petite jambe, dit Silo, t'aurais crampé sur la route et au fond d'un trou. Hardi, la gradaille, va rappliquer. » T'as des bras de lait, pauvre petit homme. Tiens, je te vais éclater ton fat caillou. Gare, je picota. J'ai mal, dit Jambe de Laine, soulevant à peine sa tête pâle. Va donc, soldat, reprit Silo. Est-ce qu'on meurt dans les champs de pierre ? Voilà Cruchette. Y a pas de fouan. Tu es franc comme l'or. Nous allons boire enfin. Derrière les monceaux de cailloux parut la figure craintive d'une fille brune. Elle guetta les alentours, s'essuya les joues et apporta une cruche à l'ombre de la meule où travaillaient Silo et Jambe de Laine. « Cruchette, Cruchette, dit Silo, mon copain est malade. Donne-lui un coup d'eau fraîche. C'est un bon garçon, il a de la peine. Je vais vous laisser, si le sergent vient, défilez-vous par le fossé. Moi, je vais refaire la manche à ma masse. » Cruchette se glissa timidement jusqu'aux pierres. Le bourgeron levé sur le pot, Jambe de Laine y but longtemps, puis il regarda les yeux de la fille. « Et c'est tout, dit-il. Comme tu voudras, répondit Cruchette. On ne les surveillait pas beaucoup. Les sergents passaient toutes les heures, sachant que les hommes punis de prison préfèrent le travail de cailloux au peloton de chasse. De l'appel du matin à l'appel du soir, le calot, baissé sur les yeux, il maniait la masse de plomb et rentrait dans la prison pendant la nuit. Silo, ayant servi en Afrique, connaissait les compagnies où l'on peine sous le revolver. Il avait la figure osseuse et tannée, des membres longs et l'œil féroce. Jambe de Laine venait on ne sait d'où. Il était faible, paresseux et lâche, mais son sourire était tendre, ses yeux pleins de charme, et sa démarche très nonchalante. Silo et Jambe de Laine devinrent comme deux frères. L'ancien, qui avait sué dans des trous au pays du soleil, eut pour le jeune une grande sollicitude. D'ordinaire, il doublait son travail en cassant les pierres de Jambe de Laine. Et lorsque celle qu'il avait appelée Cruchette apparaissait vers le milieu du jour, Silo la menait vers le petit frère qui avait les foies blancs. « Tiens, Cruchette, disait-il, et crachant de côté, « Petit, v'là de quoi boire, passe ta peine. » Et d'où venait Cruchette ? Comme un papillon qui vole autour d'une chandelle, cette fille à la cruche errait parmi les prisonniers. Elle leur tendait des pots à la bouche, elle ne parlait presque pas et pleurait avec les plus jeunes. Quelquefois, elle avait des genêts dans les cheveux, les mains terreuses, les seins parfumés de foin. Si elle se sentait les joues rouges, elle les appuyait au ventre brun de sa cruche pour les pâlir. Elle paraissait aimer son pays et ses landes pierreuses. Cruchette, lui dit Jambe de Laine, étendue dans le fossé, une main derrière la tête. « Ce n'est pas une vie. J'ai encore 40 jours à tirer. Veux-tu nous en aller ?» Cruchette le regarda avec de grands yeux. « Oui, reprit Jambe de Laine, on en a parlé déjà avec Silo. La mer n'est pas loin et ça le connaît. Il y a une crique par là. On démarrera un canot. Nous irons en Angleterre. » Sur les quais de là-bas, on trouvera bien à s'embaucher. J'apprendrai le métier. Ça nous mènera dans les Indes, où les hommes sont couleur de cuivre. Si nous avons de la chance, nous irons dans leurs montagnes, qui sont pleines d'or, et nous ferons ce que nous voudrons. Cruchette secoua la tête. Deux gouttelettes transparentes coulèrent sur ses joues. Jambe de Laine lui caressa les cheveux. « Laisse-moi pleurer, dit-elle, ça me fera du bien. » « Comment veux-tu que j'aille? Mes pieds sont nus. On me chassera de tous les bateaux. Je ne sais pas ce que c'est que les Indes. Ici, j'aime mes fleurs jaunes et mes hommes qui travaillent dans les cailloux, et je leur donne à boire. Mais tu ne t'en iras pas, petite amie. » Jambe de Laine haussa les épaules. L'heure chaude passait. Silo siffla doucement pour avertir que le sergent arrivait. Tous deux accroupis soulevèrent la masse et l'abattirent avec un roulement de pierre. Puis les ombres s'allongèrent, on entendit des voix. Au commandement, des hommes en bourgeron se levèrent et vinrent en file déposer au pied du chef d'escouade leur marteau de plomb. Puis se forma la colonne par quatre pour entrer au quartier. On ne fit pas l'appel avant de remettre les soldats en prison, où les gamelles pleines étaient rangées sur le bas-flanc. Mais le soir, quand le commandant de poste Lanterne au poing compta ses prisonniers dans la salle d'allée. Il lui manquait deux hommes, Jambe de Laine et Silo. Ils avaient roulé leurs bourgerons et leurs calots sous les pierres. Nu-tête, la chemise ouverte, ils suivaient la lisière de la route vers la mer. La brise de la nuit soufflait. Jambe de Laine marchait plus lentement. « Allons, dit Silo, t'es plus dans la peine, mon gars. T'as des plumes aux pattes, comme les chouans qui volent le soir. » L'air était salé. Ils ne dirent plus rien, tandis que leur godillot faisait crier la terre sèche. Les haies blanches de brune noircissaient derrière eux. À l'horizon, des moulins à vent sombres faisaient tourner leurs ailes, encore un peu rougies par le soleil. « Et Cruchette, dit Silo tout à coup. « Va donc, nous en retrouverons dans les Indes. » Des Cruchettes avec des yeux doux. « Mais mon gars, maintenant, t'es plus dans la peine. Il y aura part à deux. » Jambe de Laine ne répondit pas. Il était là, peut-être. La lande s'abaissait, grise, vers la mer. On entendait les lames qui brisaient par le sentier de ronde. Silo mena son camarade à la petite crique, où une barque rame rentrée était couchée sur le sable. Comme il s'approchait de l'intérieur de la barque, surgit une forme féminine. « Je m'en vais avec vous, dit-elle en riant à travers ses pleurs. « Cruchette, dit Jambe de Laine, viens-nous-en, Cruchette est venue. » « Pour moi, mon gars, répondit Silo d'une voix profonde. « Pour moi, mon vieux, cria Jambe de Laine. « Dis donc, on n'est plus sur les cailloux ici. On fait ce qu'on veut. J'ai plus besoin de toi. « Cruchette, dit Silo, Cruchette, dit Jambe de Laine. » Et elle courut entre deux, car l'un en face de l'autre, près de la barque et du flot qui tremblait, à la lueur de la lune montante, ils avaient tiré leur couteau blanc.
Cayenne, c'est fini, pas de veine. Plus de soucis, Cayenne, c'est fini. Pas de lettres de mon ami, ce n'est pas. peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Jusqu'au martyr, où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté, j'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon, 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 bon. Cayenne. Cayenne, bon, 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 c'est fini, Cayenne. Puis le temps que j'attends ma remise de peine, y a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini.
Allez les mecs, au boulot.
C'est fini, j'emmène loin d'ici la mauvaise graine de mes soucis qui a fleuri à Cayenne.
Cayenne,
captivité pas bon.
Cayenne,
tentative d'évasion.
Cayenne,
la prison quadrillée.
Cayenne,
niqué par les képis.
Cayenne,
des matons, des catis.
Cayenne,
quasiment déphasé.
Cayenne,
plaidoirie kamikaze.
Cayenne,
l'avocat dégoûté.
Cayenne,
lui manquait quelques cases.
Cayenne,
système pénitentiaire.
Cayenne,
condamner l'accusé.
Cayenne,
à purger l'eau de peine. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux
à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne.
Évidemment, avec les cailloux cassés à la masse dans le texte de Marcel Faube, fallait bien que j'enchaîne avec Cayenne, c'est fini. Ah, la claque qu'on s'était pris en 79 avec la sortie de l'album Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres. Celui-là, c'était le deuxième titre de l'album, juste après l'énorme, l'immense Champagne. Avec, il me semble qu'à la Sanza, c'était Jacques Higelin lui-même. Et sur le même album, il y avait quand même L'attentat à la pudeur avec Elisabeth Wiener, Tête en l'air, Dans mon aéroplane blindé. Je crois que c'est dans celui-là qu'il y a la voix du petit prince qui était Ken Higelin, le fiston, et puis le deuxième album, File à la patte du caméléon, Avec la rage en dedans, Je ne peux plus dire que je t'aime, 3 tonnes de TNT, enfin bref, un des machins qu'on avait, je sais pas si on l'avait tous dans notre discothèque, mais quand on allait chez les potes et qu'on le voyait, on rêvait de l'avoir. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, dans le cadre de la parité, il faudra qu'il y ait autant de consonnes que de voyelles. Je sais pas si ça va être faisable, non.
Alors je vais enchaîner avec un petit morceau, un petit extrait de L'Amant de Marguerite Duras. Toujours dans Mathématiques de l'apparence. C'est un extrait qui est tout début du livre. Très vite, dans ma vie, il a été trop tard. À 18 ans, il était déjà trop tard. Entre 18 et 25 ans, mon visage est parti dans une direction imprévue. À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois, alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner un à un, mes traits, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayée, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris par exemple au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, et qu'un jour, il se ralentirait et qu'il prendrait son cours normal. Les gens qui m'avaient connue à 17 ans, lors de mon voyage en France, ont été impressionnés quand ils m'ont revue 2 ans après, à 19 ans. Ce visage-là, nouveau, je l'ai gardé. Il a été mon visage. Il a vieilli encore, bien sûr, mais relativement moins qu'il n'aurait dû. J'ai un visage lacéré de rides sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s'est pas affaissé comme certains visages, aux traits fins. Il a gardé les mêmes contours, mais sa matière est détruite. J'ai un visage détruit.
Que j'ai, je n'ai pas toujours eu la même. Quand on ressemble à ces poèmes, on finit souvent sur le quai. Je navigue sur des canaux où ma vieille péniche sur. Elle a vu tellement d'écluses qu'elle n'a même plus l'air d'un bateau.
On a beau jouer au seigneur, montrer ses biceps et ses dents, un jour on annonce la couleur, ce n'est qu'une question de temps.
Je laisse traîner un peu partout mes sourires à l'appel pour que mes journées soient plus belles. D'ailleurs tout le monde s'en fout. Ma plus grande erreur au départ fut d'avoir quitté mon village. J'avais pris ça pour du courage. J'ai dû me tromper quelque part.
Quand on se prend pour un seigneur, faut être armé jusqu'aux dents. Ce qui ne tient pas c'est le cœur. Ce n'est qu'une question de temps.
Bien la gueule que j'ai, c'est le grand guignol en partance. Si du désarroi en vacances, c'est impossible à corriger. Si je rigole, c'est tant mieux pour tous les cons qui me regardent, pour les planter jusqu'à la garde. J'espère devenir assez vieux.
Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps. Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps. Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps. Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps.
Eh oui, quand Sophie m'avait dit « je vais avoir un texte de Duras sur le visage dans... » Dans ma tête, à un moment, d'un seul coup, y a eu cette phrase « Regardez bien la gueule que j'ai, je n'ai pas toujours eu la même ». Je me suis dit « Bon, allez, on va le passer ». C'est un texte de Bernard Dimet au départ, c'est une musique de Stéphane Reggiani. Là, c'est la version de mon côté punk, mais je me dis que, comme on est autour de la table, là, bien tranquille, la même chose, mais avec la voix de Reggiani, ça prend de la gueule, ça prend de la bouteille. Je l'offre aussi.
Regardez bien la gueule que j'ai, je n'ai pas toujours eu la même. Quand on ressemble à ses poèmes, on finit souvent sur le quai. Je navigue sur des canaux où ma vieille péniche s'use. Elle a vu tellement d'écluses qu'elle n'a même plus l'air d'un bateau. On a beau jouer les seigneurs, faire voir ses biceps et ses dents, un jour on annonce la couleur. Ce n'est qu'une question de temps. Je laisse un petit peu partout traîner des sourires à l'appel, pour que mes journées soient plus belles. D'ailleurs tout le monde s'en fout. Ma plus grande erreur au départ fut d'avoir quitté mon village. J'avais pris ça pour du courage. J'ai dû me tromper quelque part. Quand on se prend pour un seigneur, il faut être armé jusqu'aux dents. Ce qui ne tient pas, c'est le cœur. Ce n'est qu'une question de temps. Regardez bien la gueule que j'ai, c'est le grand guignol en partance, c'est du désespoir en vacances, c'est impossible à corriger. Si j'en rigole, c'est tant mieux. S'il y a des gens qui me regardent, pour les planter jusqu'à la garde, je veux devenir très très vieux. Quand on est vraiment un seigneur, qu'on a payé la peau des dents, on peut annoncer la couleur et se foutre de l'air du temps. Regardez bien la gueule que j'ai.
La peau des dents, c'était le titre d'un des recueils de Bernard Dimet. Là, c'est l'enregistrement de 1979 par Serge Reggiani sur la musique de son fils Stéphane. Et c'est en 1980 que Stéphane Reggiani s'est tiré une balle dans la maison de ses parents et dans la tête. Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est qui s'y colle ?
Alors j'ai un petit texte, si vous voulez, de Pierre de Jade. Hors du commun, ça s'appelle. Un type qui s'appelle commun, c'est original, vous en conviendrez. Porter le nom commun comme nom propre, avouez que ce n'est pas commun. Une exception à faire tourner en bourrique de vénérables grammairiens, pourtant loin d'être des ânes, mais qui avait déjà eu du mal à admettre que les noms des communes soient des noms propres. Mais revenons à Monsieur Commun, peu banal. Il loge dans un immeuble de la commune dont les parties communes ne sont pas toujours propres, alors que son propre deux pièces est toujours d'une propreté hors du commun, au point d'impressionner ses voisins, qui n'ont pas tardé à le surnommer Monsieur Propre, un nom propre que la publicité a fini par rendre très commun. Une notoriété dont Modeste, Monsieur Commun, qui se prénomme Modeste, n'est pas peu fier, lui qui passait pour un propre à rien dans sa jeunesse. Il en rit souvent avec ses voisins, car dit-il, si le rire est le propre de l'homme, selon Rabelais, le mettre en commun permet de confirmer cet autre adage, un peu plus récent. Plus on est de fou, plus on rit. quand je vous dis qu'il ne s'agit pas du commun des mortels. Voilà, à suivre, pour que l'humour réponde encore et toujours à l'horreur.
Et puisqu'il s'appelait Modeste.
Les pays, c'est pas ça qui manque. On vient au monde à Salamanque, à Paris, Bordeaux, Lille, Brest. Lui, la nativité, le prix, du côté des Saintes-Marie, c'est un modeste. Comme jadis a fait un roi, il serait bien fichu, je crois, de donner le trône et le reste contre un seul cheval camargué, bancal vieux borgne fatigué. C'est un modeste, suivi de son pain parasol. S'il fuit sans même toucher le sol, le moindre effort comme la peste, c'est qu'au chantier ses bras d'Hercule rendraient les autres ridicules. C'est un modeste. À la pétanque, quand il perd, te fais pas de soucis, pépère. Si d'aventure il te conteste, s'il te boude, s'il te rudoie, au fond, il est content pour toi. C'est un modeste. Si quand un emmerdeur le met, t'en rogne, on ne le voit jamais lever sur l'homme une main leste. C'est qu'il juge pas nécessaire d'humilier un adversaire. C'est un modeste. Et quand il tombe amoureux fou, y a pas de danger qu'il l'avoue. Les effusions d'âme il déteste. Selon lui, mettre en plein soleil son cœur ou son cul, c'est pareil. C'est un modeste. Quand on enterre un imbécile, de ses amis s'il raille, s'il a l'œil sec et ne manifeste aucun chagrin, t'y fie pas trop, sur la patate il en a gros. C'est un modeste. Et s'il te traite d'étranger, que tu sois de Naples, d'Angers, ou d'ailleurs, remets pas la veste, lui quand il t'adopte pardi, il veut pas que ce soit le dit. C'est un modeste. Si tu n'as pas tout du grimoire, si tu sais lire entre les mots, entre les faits, entre les gestes, lors tu verras clair dans son jeu, et que ce bel avantageux, c'est un modeste.
Bon, je l'avoue, c'était aussi pour pouvoir passer du Brassens. Radio Libertaire 89,4 MHz. Tiens, je vous signale qu'à la librairie du Monde Libertaire, mercredi prochain, c'est ça, le 15 mars, oui, il y aura la projection de la deuxième partie du film Hommage à Serge Livrosé. Je me demande, parce que pour raconter la vie de Serge Livrosé et tous les combats qu'il a menés, je ne sais pas combien de parties peut faire ce film, parce que effectivement, Serge, putain, qu'est-ce qu'il a milité contre les prisons. Vous vous souvenez quand même, au tribunal de Colmar, il avait balancé la déclaration d'un seul coup, pourriture de justice française. Ça lui vaut un procès pour lui, là il était venu simplement témoigner, et revenant à la barre du tribunal, je crois que c'est 2 mois après, pour son procès à lui, pour son propos pourriture de justice française, il dit « Oui, je n'aurais jamais dû dire pourriture de justice française, mais pourriture de toute les justices, la française, la russe, l'américaine, etc. À l'époque, je crois que... Enfin, je crois, non, je vérifie sur la page Wikipédia, et puis il faudrait que je vérifie dans le métron de l'anarchie, que ça lui avait valu quelques milliers de francs de peine. Oh, sur les histoires d'argent, on pourrait parler des billets et tout, mais la vie de Serge Livrosé est également intimement liée à toute l'histoire de Radio Libertaire et du mouvement anarchiste, donc, ben, mercredi prochain à 20h à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot. Et puis, ben, si je vous offrais maintenant un cadeau d'Evelyne avec un poème de Bertolt Brecht.
Extrait d'un dernier texte écrit par Bertolt Brecht. Le poème aux jeunes. J'ai vécu dans les villes au temps des désordres de la famine. J'ai vécu parmi les hommes au temps de la révolte. Et je m'insurgeais avec eux. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur la terre. Je mangeais en pleine bataille. Je me couchais parmi des assassins. Négligemment, je faisais l'amour et je dédaignais la nature. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur la terre. De mon temps, les rues conduisaient au marécage. La parole me livra au bourreau. J'étais bien faible, mais je gênais les puissants, ou du moins je le crus. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur la terre. Les forces étaient comptées. Le but se trouvait bien loin. Il était visible pourtant, mais je ne pouvais pas en approcher. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur la terre. Vous qui surgirez du torrent où nous nous sommes noyés, songez quand vous parlez de nos faiblesses à la sombre époque dont vous êtes sortis. Nous traversions les luttes des classes, changeant de pays plus souvent que de souliers. Désespérés que la révolte ne mit pas fin à l'injustice. Nous le savons bien, la haine de la misère creuse les rides, la colère de l'injustice rend la voix rauque. Ô nous qui voulions préparer le terrain de l'amitié, nous ne sûmes pas devenir des amis. Mais vous, quand l'heure viendra où l'homme aide l'homme, pensez à nous avec indulgence. Pour ceux qui souhaitent la version intégrale, à ceux qui viendront après nous. Vraiment, je vis en de sombres temps. Un langage sans malice et signe de sottise, un front lisse d'insensibilité, celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits. Celui qui là-bas traverse tranquillement la rue n'est-il donc plus accessible à ses amis qui sont dans la détresse. C'est vrai, je gagne encore de quoi vivre. Mais croyez-moi, c'est pur hasard. Manger à ma faim. Rien de ce que je fais ne m'en donne le droit. Par hasard, je suis épargné. Que ma chance me quitte et je suis perdu. On me dit, mange-toi et bois. Sois heureux d'avoir ce que tu as. Mais comment puis-je manger et boire alors que j'enlève ce que je mange à la famille? Que mon verre d'eau manque à celui qui meurt de soif, et pourtant je mange, je bois. J'aimerais aussi être un sage. Dans les livres anciens, il est dit ce qu'est la sagesse, se tenir à l'écart des querelles du monde, et sans crainte passer son peu de temps sur terre, aller son chemin sans violence, rendre bien pour le mal, ne pas satisfaire ses désirs, mais les oublier. Et aussi tenu pour sage. Tout cela m'est impossible. Vraiment, je vis en de sombres temps. Vous qui émergerez du flot où nous avons sombré, pensez quand vous parlez de nos faiblesses au sombre temps aussi dont vous êtes sauf. Nous allions changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers les guerres de classe désespérées, là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Nous savons la haine contre la bassesse, elle aussi tord les traits, la colère contre l'injustice rend rauque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être nous-mêmes amicaux. Mais vous, quand le temps sera venu, où l'homme aide l'homme, pensez à nous avec indulgence.
Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat qui lui venait de Prague? Des mots gentils dans un carton, des chaussures fines à frais au talon. C'était le cadeau venu de Prague. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat des bords de la Vistule? De Varsovie, un corsage en lin brodé, gaufré et un mandat. C'était les baisers de Varsovie. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat des forêts de Norvège? Un collet de fourrure pour l'hiver, fait à Oslo par la ville ouvrière. Salut du fjord d'Oslo en Norvège. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat de la haie de Rotterdam? Des coiffes, des blouses et des gants, et de gants, des bas en soie. Cadeau de la haie en Rotterdam. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat de la Venise du Nord? De Bruges au vieil artisanat, des dentelles fines faites au crochet. Blanche merveille de Bruges en Flandre. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat de la grande ville lumière? La voisine en bavera d'envie, une robe en soie à la mode de Paris. Souvenir de Paris, ville lumière. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat des lointains déserts de Libye? Une chaîne en argent blanc massif, une bague ancienne avec motif. Les bijoux de Tripoli, l'Africaine. Qu'a-t-elle reçu la femme du soldat de l'immense Russie, de la Russie?
Minutes 37, une parfaite construction de chansons antimilitaristes finalement. Bertolt Brecht, La femme du soldat. Interprétation ici de Pia Colombo qui avait consacré un spectacle entier à Brecht et Kurt Weill. Radio Libertaire, il est 16h34. Il est ou elle est, ça je ne sais pas, je suis incapable de vous le dire finalement. Le temps est-il masculin ou féminin?
Je vais continuer avec le portrait de Dorian Gray, c'est le chapitre 1. Donc il a été paru en 1890. Là, c'est la traduction de Christine, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Janet. L'atelier était plein d'une forte odeur de rose. Et lorsqu'un vent lumineux d'été passa entre les arbres du jardin, alors entra par la porte ouverte le parfum lourd du lilas et celui plus délicat de l'églantier. Depuis l'angle du divan de cuir persan sur lequel était allongé, et fumant comme à son habitude, cigarette sur cigarette, Lord Henry Wotton pouvait seulement apercevoir l'éclair du cytise en fleurs et sa couleur de miel, ses branches frémissantes, comme incapables de supporter la charge d'une beauté si flamboyante. Par instants, des ombres irréelles d'oiseaux en vol se projetaient sur le tussor des rideaux tirés en travers de la fenêtre, ce qui créait une sorte d'ambiance japonaise éphémère, et il lui rappelait ses peintres au visage de jade blanc, dont l'art, pourtant immobile, cherche à saisir la vitesse et le mouvement. Le murmure monotone des abeilles qui suivaient leur chemin au milieu des herbes hautes, ou s'obstinaient en cercle répétitif autour du pistil noir des premières roses trémières, rendait le calme encore plus oppressant, et la rumeur de Londres bourdonnait, en notes continues, comme un orgue lointain. Au milieu de la chambre, fixé sur un chevalet droit, se dressait le portrait grandeur nature d'un jeune homme, d'une beauté extraordinaire, et face à lui, assis un peu plus loin, se tenait le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine il y a quelques années agita beaucoup l'opinion, faisait circuler à l'époque d'étranges suppositions. Pendant qu'il regardait la forme charmante et gracieuse que son art avait habilement su reproduire, un sourire de plaisir s'installa sur le visage du peintre et sembla s'épanouir. Mais soudain, il se secoua et, fermant les yeux, plaça ses doigts sur ses paupières comme s'il voulait emprisonner dans son cerveau un rêve déroutant et craignait de se réveiller.
Le sentiment qui convient au mariage est un malentendu mutuel, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. L'abolition de la propriété privée nous rendra un individualisme vrai, beau et sain. Plus personne ne gâchera sa vie à accumuler les choses à leur symbole. Les hommes vivront, vivraient la chose la plus rare qui soit. La plupart des gens se contentent d'exister, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. Toute autorité parfaitement avilissante, elle avilit celui qui l'exerce et celui qui l'a subi, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde. Une idée qui n'est pas dangereuse ne mérite pas d'être appelée. Oscar Wilde. Les agitateurs sont des gêneurs qui se mêlent de tout et qui viennent semer le mécontentement dans les classes sociales, jusque-là parfaitement contentes de leur sort. C'est justement pourquoi les agitateurs sont si essentiels. La désobéissance, pour qui connaît l'histoire, est la vertu spécifique de l'homme. C'est par la désobéissance qu'il a progressé. Par la désobéissance et par la révolte, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde, disait Oscar Wilde.
Et J'ai eu le temps de réagir sur le nom d'Oscar Wilde. Je n'ai pas réussi à aller chercher la musique de 1952 où l'adaptation du portrait de Dorian Gray avait été faite par Jean Cocteau avec musique de Ned Rorem et diction de Jean Marais. Faudra que j'essaye de réussir ce coup-là d'ici la prochaine fois. Encore quelques textes, les uns, les unes, les autres.
Oui, j'en ai quelques-uns encore. Alors, il y en a un que j'ai écrit, c'était un coup de gueule, j'étais très énervée. Ça traite, entre autres, du harcèlement que subissent les femmes dans la rue, entre autres. Aux ignares, aux imbéciles, aux ignorants candides, aux ignorants tout court, et surtout, surtout, à ceux et celles qui s'évertuent à garder les yeux et leurs oreilles grands fermés, je voudrais raconter cette histoire banale à pleurer. J'ai une jolie robe que j'ai séchée chez moi, je suis seule. Je la mets et me regarde dans la glace et me trouve belle. Seulement, voilà, l'angoisse monte, une sensation d'urgence, une conscience d'un danger, et je déchante quand je me dis que peut-être, une fois arrivée dehors, peut-être même sur le seuil de ma porte, peut-être vais-je regretter d'avoir mis cette jolie robe. Alors peut-être que je ne la mettrai pas. Cela dit, je tiens à dire, même si j'enfonce, vous dis-je, des portes grandes ouvertes, si je sors habillée en sac, disons par exemple en t-shirt trop grand pour moi et ample et pantalon le plus large possible, comment cacher son corps le plus possible à part avec un voile cachant tout son corps, je me ferai emmerder tout autant. La probabilité serait la même que je ne serais pas étonnée. Ouvrons les yeux ou arrêtons de ne pas vouloir admettre que les agressions faites à ma personne en tant que femme ne sont pas liées à mes vêtements. Ces agressions, dont toute femme est victime, ne sont liées qu'à ce corps de femme, caché ou pas, pas d'importance. Mais le secret de Polichinelle fait que je ne mettrai pas cette robe. Ou que si je la mets, je me sentirai en alerte parce que si je suis agressée, toute la société m'accusera. Si j'ai un vêtement ample, elle me dira que j'ai simplement peut-être été draguée ou... Il n'en vaut pas la peine, voyons mademoiselle, séchez vos larmes, c'est un con, c'est tout. Sauf que si je suis dans la rue et que si je suis insultée gratuitement, il n'y a aucune justification à faire. Ça n'est pas normal, c'est une agression, c'est grave et injuste.
Tu vas au boulot, tu marches seule, à la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h, t'es si appétissante. Je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais, moi, je suis pas jaloux. Viens dans mon lit, ça va te plaire, s'il faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. Bats-toi. enfin chez toi. Tu te poses sur le canapé. T'allumes l'ordi. T'as un message instantané. Hey, salut, la mise, t'es vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je payerai même pas pour des nems à volonté. Parce que t'en vaut pas la peine, de toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort. Parce que tu te crois au-dessus, tu t'es pris pour Rihanna. Quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couloir d'à côté. T'es une bouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fillette.
La chanteuse Suzanne, sur son premier album, la chanson s'appelle « Salut ». Et elle en est au deuxième album maintenant. Radio Libertaire, il est 16h47. Dans un quart d'heure, ça sera Bulle Noire, sûrement cette semaine du Polar. Et qu'a-t-on encore dans le studio ?
Un petit passage d'un livre qui s'appelle « La Disgrâce », qui a été publié en 81. Par Nicole Avril. Il y a eu un film en 2018 d'ailleurs que je n'ai pas vu parce que j'ai pas voulu être déçue, mais bon. Donc c'est un tout petit extrait et c'est la mère de la protagoniste principale qui parle. À quoi tu ressembles? Mais tu ne ressembles à rien. Une méduse qui pourrit sur les galets de la plage, tu crois que ça ressemble à quelque chose? Tu es molle et flasque. Et qui donc voudrait seulement te toucher? Tu devrais me remercier d'oser me salir les mains en tapant sur toi. Sale petite fille, laide. Voilà, c'est tout.
Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux éternités, ton visage. Une bouche à jamais douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au gré des nuages. J'ai dû fermer les yeux, j'aurais dû faire un nœud aux nuages. Le vent s'est retourné et la vie m'a soufflé en visage. Et je me suis saoulé pour tâcher d'oublier ton visage. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie, mon passé. Et je le redessine et le vent le ressouffle, ton visage. Pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord
quel voyage. Hier c'était demain, demain ce sera toujours ton visage qui sentait à coller comme un drapeau mouillé en retraite. Et je le redessine et le vent le ressouffle, ton visage. Des yeux bruns pour le jour, verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour deux éternités, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. En me fermant les yeux, je le devine au gré des nuages. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Comme je vous le disais en début d'émission, Ariel et Elsa sont excusés pour l'émission d'aujourd'hui. Ariel surveille quand même l'hypertension, c'est quelque chose de dangereux. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, on improvise une version d'émission où on lance un mot à Sophie et elle trouve des textes.
Alors là, c'est une chanson que je vais vous dire, du groupe Les Ailes. Un groupe qui... Alors, sur Internet, j'ai trouvé qu'il était né en 92 ou 94. Donc, dans les années 90, c'était au départ quatre filles. C'est vraiment atypique, un peu punk. Enfin, j'adore. Et donc, cette chanson-là, c'est la chanson qui s'appelle Mathilda Kepps. Elles étaient plutôt acoustiques et après elles sont parties un petit peu dans l'électro et c'était à ce moment-là. C'est une histoire d'amour à la Todd Browning. Cette femme sur un chariot, belle comme un démon, glissée en strass au sommet de la toile. Mathilda Kepps, danseuse céleste et star du cirque. Ses jambes faisaient rêver les hommes du monde entier. Elle était mariée à Monsieur Criardi, le célèbre dompteur de lions et de panthères. Il aimait éperdument, il n'y vivait que pour elle. Mathilda était infidèle. Lui rongeait sa rage et ses ongles, la nuit sous le chapiteau sombre. La troupe l'entendait pleurer. Il était fou de jalousie, mais il laissait faire. Il la regardait s'amuser avec un drôle d'air. On sentait bien que ça finirait mal pour Mathilda Kepps, danseuse céleste et star du cirque. Voici ce qui arriva à Mathilda un soir où M. Criardi avait l'alcool mauvais. Pour se venger de toutes ses infidélités, il attrapa sa scie, coupa sans sourciller le corps de Mathilda en deux. Les jambes infidèles de la belle finirent dans le ventre des lions. Mathilda devint femme tronc. Mathilda Kepps était trop belle, victime de son xès-appel. Sur ses virtuoses aux talons, elle ne savait pas dire non.
Orthopédia jambe de bois. Orthopédia jambe de bois. Orthopédia jambe de bois. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et celle qui m'a donné la vie, eh ben, elle a pas de quoi être fière. D'ailleurs, elle n'est pas trop. Orthopédia jambe de bois. Orthopédia jambe de bois. Orthopédia jambe de bois. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et quand on va chez Monoprix, je me planque derrière le caddie. Je regarde les beaux. Je rêve que je m'endors.
à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. Orthopédie à jambes de bois. J'aime bien Eddie Mitchell. Je mets son poster dans mon lit et puis j'enlève tous mes habits. Je l'embrasse sur la bouche. Des fois ma mère m'appelle. Je lui dis tais-toi, je fais l'amour. Quand tu le fais, t'aimes pas que je te regarde. C'est comme ça qu'on m'appelle. Un jour je vais tous y mettre le feu. Un jour je vais leur crever les yeux. Comme ça ils me verront plus.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Merci de m'avoir fait repenser aux ailes, finalement, avec Pascaline Hervette et Sophie Henry. Et merci d'ailleurs à Laurent Ballandras, qui de son côté a réédité, il y a quelque temps de cela, les disques des ailes. Radio Libertaire, il est 15h57. Dans 3 minutes, ça sera Bulle Noire. Au fait, Sophie, on se retrouve quand pour toi?
Je ne sais pas, je pense que ce sera le mois prochain.
Un dernier texte pour Michel, toi?
La prochaine invitée pour l'instant que ce sera la, pour moi, ce sera le 8 avril. Ce sera Dédé Maccabé qui viendra, comme la cigale avec son instrument, nous parler de son expo de peinture.
Bon, si on a le temps, je peux finir avec un poème de Jean-Marie. De son recueil de poèmes de 1951 à 1954. Et c'est un texte qui s'appelle Portrait de Danny Dreger, ou Dreger, ou Dreger, je ne sais pas comment ça se prononce. Tourbillon de tes yeux, les liserons débordent sur la nappe édentée de bleu, croissant d'été, tes hanches bordées de lune tiède s'équilibrent dans ta course à l'amour. Tes cheveux, attelage noir au galop, le sifflet de roseau que tu presses dans la colère de ta pudeur attise la fureur de tes dents, plaine sacrée où s'élève le temple à Lesbos. Ton ventre garde ses secrets et nous ne pouvons les violer. Donc, il a été écrit à Paris en août 51. Thank you.
Radio Libertaire, dans 30 secondes, il sera 17h. Et rendez-vous compte, il ne sera plus jamais 17h, un samedi 11 mars de l'année 2023 jusqu'à la fin des temps.